Accent d'Europe, Catherine Roland. Bonjour à tous. C'est un feuilleton qui semble sans fin. La saga du Brexit continue au terme de trois folles journées de vote à la Chambre des communes. Hier soir, les députés britanniques ont voté le principe du report au 30 juin de la sortie de l'Union européenne. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Catherine.
Alors, vous avez suivi tous ces débats et ces votes à Westminster et on ne peut pas parler de tournant aujourd'hui.
Alors, si les députés ont accepté finalement l'idée d'un report du Brexit, ça n'a pas été facile. Les eurosceptiques sont toujours très opposés au principe. Même le ministre du Brexit, Stephen Barclay, qui a conclu les débats hier soir en intimant les députés à voter pour la motion de Theresa May, a finalement décidé lui-même de voter contre. Mais cela dit, ce qui a été voté hier soir ne change rien pour l'instant, car Theresa May avait pris soin de conditionner cette motion au vote par le Parlement d'ici le 20 mars de son fameux deal avec l'UE. Oui, ce même deal qui a été deux fois massivement rejeté par la Chambre des communes en janvier et mardi.
Mais alors, Marie, pourquoi est-ce que cela passerait une troisième fois?
Alors, c'est vrai, rien n'est sûr, mais les pro-Brexit pourraient bien prendre peur. S'ils ne votent pas pour le deal, Theresa May a déjà dit qu'elle devrait demander à Bruxelles une longue extension de l'article 50, de quelques mois à un an et demi. Et pour que les Européens disent d'accord, il faudra qu'elle accepte leurs conditions. Et une des conditions serait des élections nationales, ou bien une autre serait un second référendum. Ce serait un cauchemar pour les farouches Brexiteurs qui verraient s'éloigner la perspective d'un adieu à l'UE. Parce qu'un second référendum, oui, c'est toujours possible malgré le vote de jeudi soir. Cet amendement favorable donc à un second référendum a été largement repoussé par les députés, mais même les partisans d'un People's Vote ont freiné des cas de fer. Il est encore trop tôt pour cela, disent-ils, et ont donc intimé les parlementaires à voter contre. Mais l'idée n'a pas été tuée dans l'œuf, de même que la perspective d'un no deal qui est elle aussi toujours possible malgré les votes contre l'idée d'une sortie sans accord cette semaine. C'est donc le pari de Theresa May. Poussée dans leur retranchement, les deux camps pourraient donc se retrouver à voter pour le deal le 20 mars, surtout si d'ici là, le procureur général du Royaume estime que le pays peut sortir du fameux backstop en invoquant la Convention de Vienne, l'option nucléaire, comme l'a dit le gouvernement hier. Si les Nord-Irlandais du DUP sont convaincus, les pro-Brexit de droite et de gauche pourraient alors voter pour le deal le cœur plutôt léger. Mais rien n'est fait, pour l'instant, Theresa May se prépare à une nouvelle défaite.
Bon, si son deal est rejeté, vous l'avez dit, Theresa May va demander un long report de la date du Brexit. Et les Britanniques, eux, ils en pensent quoi?
Alors, ils ont posé leur tasse de thé pour pouvoir se prendre la tête entre les mains. Clairement, la plupart des gens veulent qu'on en finisse. Bref, la population s'exaspère parce qu'avec tous ces votes, les choses changent chaque jour, mais en fait, rien ne bouge.
Marie Billon, notre correspondante à Londres. Les élèves du monde entier qui marchent pour le climat ce vendredi, appelés par leur nouvelle égérie, la Suédoise Greta Thunberg. La jeune fille sèche les cours une fois par semaine et stationne devant le Parlement de Stockholm pour alerter les grands de ce monde sur le réchauffement de la planète. Son action a rapidement fait tache d'huile dans une dizaine de pays européens comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Finlande, la Suisse ou encore la France. Mais les plus mobilisés, ce sont incontestablement les jeunes Belges qui manifestent chaque jeudi dans les rues de Bruxelles, de Liège ou de Louvain. Ce vendredi, c'est la manifestation mondiale et ils sont bien présents à Bruxelles. Lax Milota les a rencontrés.
C'est leur slogan, leur marque, leur cri de ralliement. Nous sommes plus chauds que le climat. Ils sont chaque semaine plusieurs milliers à marcher dans les rues de Bruxelles, parfois avec leurs professeurs. Il y a des écoliers de l'école primaire, des collégiens, des lycéens et des étudiants.
Nous, on va subir ce changement climatique et on pourrait en mourir de ce réchauffement climatique et c'est pas ce qu'on voudrait, quoi.
On croise aussi des ours polaires et des dizaines de pancartes aux slogans évocateurs, parfois provocateurs. Chauffe ton mec, pas la planète. Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. Il n'y a pas de planète B. J'ai rangé ma chambre, rangez votre désordre. Ou encore, papa, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Remettre de l'ordre, c'est aussi ce que demande Greta Thunberg. L'adolescente suédoise est l'exemple à suivre pour tous ces jeunes. C'est elle qui a lancé le mouvement. Elle s'est rendue à Bruxelles le mois dernier.
Notez s'il vous plaît que nous avons commencé à nettoyer votre désordre et que nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Pour moi, c'est vraiment incroyable de voir ça. Le mouvement a pris une si grande ampleur et si rapidement. Des centaines de milliers de jeunes du monde entier se mobilisent pour la planète, pour le futur, pour se faire entendre, ça donne de l'espoir.
L'adolescente n'a pas caché sa déception après sa rencontre avec les décideurs de Bruxelles, notamment le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.
Je pense que Jean-Claude Juncker a dévié du sujet. Il parle des conflits, mais pas trop du climat, ce qui est bien triste, évidemment. Je trouve que c'est beaucoup de blabla, de négociations, mais nous n'avançons pas. Nous sommes toujours sur place, sur la case départ.
Dans la rue, les jeunes se disent décidés à sécher les cours tant qu'il le faudra, tous les jeudis. Qu'espèrent-ils, à court ou à long terme ? Leurs idées ne sont pas toujours très concrètes, mais ils veulent déclencher une prise de conscience.
Au moins qu'on se réunisse tous pour notre climat, qu'on se batte tous ensemble, qu'on se bouge en fait, parce que après ça sera trop tard.
Plus de lois pour le climat, et les ministères, ils doivent faire quelque chose parce que c'est très urgent et ils font rien en fait.
Et que c'est pas l'argent qui est la priorité, mais le futur aussi.
Si on fait rien, il y aura plus rien, il y aura plus de neige. Enfin, genre dans 100 ans, il y aura des gens, ils seront là. C'est quoi la neige ? Voilà quoi.
Ce jour-là, les manifestants espèrent un 15 mars où les jeunes du monde entier demanderaient la même chose.
Ça serait vraiment excellent. Franchement, je trouve que ça serait vraiment un truc hyper important. Et au moins, ça ferait réagir tout le monde. Là, ça serait pas qu'un mouvement national, puisque là, c'est surtout en Belgique. Avec les réseaux sociaux, tout est possible maintenant. Franchement, on s'est joint de tout le monde, donc oui, c'est possible.
Il faudrait qu'il y ait plus de 5 000 personnes, ce serait bien.
Nous, on est quand même assez privilégiés au niveau financier, donc on peut se poser ces questions-là. Il y en a qui n'ont pas l'occasion de se les poser. Donc nous, on est obligé de montrer l'exemple.
L'acteur américain très engagé en faveur de l'environnement, Leonardo DiCaprio, lui-même a salué les manifestations belges sur Instagram. Une fierté pour les jeunes. Sur les réseaux sociaux, ils sont parfois moqués. On les accuse de tout faire pour manquer l'école, d'être les premiers pollueurs avec leurs vêtements, leurs smartphones. Les jeunes défenseurs de la planète répondent qu'il ne faut pas changer de sujet.
À l'origine de la mobilisation des jeunes pour le climat, donc une adolescente suédoise, Greta Thunberg, 16 ans, qui a commencé sa grève scolaire le 20 août devant le Parlement de Stockholm. La jeune fille qui est même proposée au prix Nobel. Étrangement pourtant, le mouvement a du mal à prendre en Suède. Anne-Françoise Hiver.
Avant le 15 mars, une mobilisation était annoncée dans plus de la moitié des 270 communes du royaume scandinave. Cela peut paraître beaucoup, mais jusqu'à présent, il n'était que quelques dizaines à se rassembler le vendredi dans chacune d'entre elles. Pas toujours des lycéens d'ailleurs, plutôt des adultes en soutien à Greta Thunberg. Même chose à Stockholm, où la grève pour le climat du vendredi ne rassemble jamais plus de 250 personnes. Et encore, la plupart de ceux qui viennent ne restent qu'une heure ou deux. Greta a une explication, elle est introvertie. Si l'adolescente a le statut d'égérie à l'étranger, elle n'a pas la carrure d'un leader, quelqu'un qui organise les troupes, comme en Belgique, en Allemagne ou en Australie. Autre explication, la grève n'est pas un instrument familier de la culture du consensus à la suédoise. Des enseignants ont d'ailleurs fait savoir qu'ils seraient obligés d'inscrire les élèves comme absents, ce qui à terme pourrait avoir des répercussions, notamment sur le versement de leur bourse. À Stockholm, des activistes raillent la confiance systématique en l'autorité, le fait également que beaucoup de Suédois estiment que leur pays fait déjà beaucoup en matière d'environnement. Pourtant, la popularité de la jeune fille ne cesse de croître dans son pays. Le 8 mars, les lecteurs de deux journaux l'ont élue femme de l'année. Aucun des leaders politiques ne l'a encore officiellement rencontrée. Selon ses soutiens, il serait alors obligé d'admettre que le royaume n'est pas aussi bon élève qu'il le prétend en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
Ce 15 mars résonne tout particulièrement chez les jeunes Polonais. Leur pays a accueilli la dernière grande conférence climat, la COP24, en décembre dernier. Et c'est un des pays les plus pollués d'Europe avec ses centrales au charbon. Alors, les jeunes mobilisés réclament des actions immédiates, en particulier pour diminuer la pollution de l'air. À Varsovie, c'est le reportage de Thomas Giraudot.
En passant devant le lycée Jacek Couronne à l'est de Varsovie, l'affiche attire les regards. Un globe terrestre en feu, un thermomètre dans la bouche et ce message « N'augmentez pas la température ». Anthony Wisniewski-Michal nous invite à l'intérieur pour nous montrer les affiches préparées avec une trentaine d'autres lycéens.
Là, c'est « Najpierw matura, potem matura », ça veut dire « En premier la nature et après le bac ». To nie świat, w którym chcemy żyć. Ce n'est pas le monde dans lequel on veut vivre.
Pour Anthony, comme pour de nombreux adolescents polonais, le déclic est venu après le discours très remarqué de la lycéenne suédoise Greta Thunberg lors de la COP24 en décembre chez eux à Katowice. 3 mois et plusieurs réunions plus tard, les jeunes organisent enfin leur première grève en Pologne pour le climat. Des manifestations auront lieu au moins dans une vingtaine de villes.
C'est la seule manière que quelqu'un va nous entendre. Je pense qu'il n'y a pas une différence si j'ai 16 ans ou 40 ans. C'est le même air qu'on respire.
La pollution de l'air, c'est un des problèmes majeurs en Pologne. Près de 50 000 personnes en meurent chaque année, d'après l'Agence européenne de l'environnement. L'hiver, les villes du pays sont souvent recouvertes d'un brouillard polluant, le smog. Laura Misurkiewicz, 15 ans, se joint au cortège ce vendredi.
Quand Varsovie s'est retrouvée dans le top des villes les plus polluées au monde, cela a créé une prise de conscience, surtout de la part des jeunes. Nous voyons qu'il y a beaucoup de voitures à Varsovie et que les Polonais n'utilisent pas assez les transports en commun. Cela montre que les adultes ne considèrent pas vraiment cela comme un problème. Là, ils verront des centaines d'adolescents dans les rues dire « Nous sommes le futur ». Dans 20 ans, vous serez peut-être mort, mais nous, non. Et nous devrons subir les conséquences de vos actions.
À côté, son camarade, Timothée Ouchvarovski, espère aussi pouvoir changer les mentalités, mais la tâche s'annonce compliquée.
Durant l'époque communiste, les gens n'étaient pas riches. Maintenant, ils le sont. Ils peuvent manger de la viande tous les jours, faire tout ce qu'ils veulent. Ma mère m'a dit un jour qu'elle était suffisamment riche aujourd'hui pour conduire sa voiture tous les jours.
Avec les transports, l'autre principale source de la pollution, c'est le charbon. Près de 90% de l'électricité produite en Pologne est tirée de cette énergie fossile et le secteur emploie toujours près de 100 000 mineurs, un électorat que le gouvernement ne veut pas perdre. Agir, tenter d'améliorer la situation. À 21 ans, Tomek Grodecki vient de rejoindre Warszawski Alarm Smogowy, une association qui lutte contre la pollution de l'air à Varsovie.
Je suis un chanteur classique. Je chante depuis 12 ou 13 ans. J'ai déjà perdu ma voix 2 fois et je pense que c'était à cause de la pollution de l'air. Le simple fait de vivre et de respirer à Varsovie équivaut à fumer environ 1 millier de cigarettes chaque année.
Selon lui, les jeunes qui manifestent doivent aussi mettre la pression sur les pouvoirs locaux.
À Varsovie, il devrait y avoir davantage d'investissements dans les transports publics. Beaucoup de gens qui travaillent ici vivent dans d'autres villes, en banlieue. Et pour eux, c'est très compliqué parfois de venir jusqu'à leur travail à Varsovie.
Pour changer ses habitudes, il faut aussi avoir conscience du réchauffement climatique, savoir comment agir. Les jeunes polonais demandent donc de vrais cours à l'école sur ces questions. À 20 ans, engagé avec l'UNICEF, Krzysztof Rentfleisch a participé à la dernière grande conférence climat, la COP24 de Katowice.
En Pologne, il n'y a pas formellement de cours sur le changement climatique. Bien sûr, en géographie, en biologie, on évoque ce sujet, mais ce n'est pas suffisant. Donc ce type de protestation, d'action ce vendredi, est utile parce qu'elle va mettre en lumière ces questions. Les gens auront des informations là-dessus.
Selon un récent sondage, seuls 40% des Polonais estiment que le changement climatique constitue une menace pour l'humanité.
Et si l'on pouvait résoudre la crise climatique tout en évitant une crise financière? C'est ce double exploit que veut réaliser le pacte finance-climat, un projet porté par l'économiste Pierre Larouturou, le climatologue Jean Jouzel et Anne Hessel, la fille de l'intellectuel décédé Stéphane Hessel. Pierre Larouturou, qui se réjouit de la mobilisation de la jeunesse, il espère voir le dossier au menu du sommet européen consacré à l'avenir de l'Europe le 21 mars prochain et il se veut volontaire et optimiste.
Si on veut gagner la guerre contre le dérèglement climatique, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et on dit, bonne nouvelle, il y a de l'argent, simplement il faut l'utiliser autrement. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais depuis 3 ans, la Banque Centrale Européenne a 2600 milliards d'euros. C'est colossal, qui ont été donnés aux banques. Et le problème, c'est que seulement 11% de cet argent est allé dans l'économie réelle et que 89% est allé à la spéculation. Et encore l'autre jour, Christine Lagarde, le FMI, dit « Attention, on va vers une crise financière qui peut être beaucoup plus grave que 2008. Et les climatologues nous disent qu'on n'a plus que quelques années pour isoler tous nos bâtiments, développer les transports en commun, développer les énergies renouvelables. Donc ce qu'on demande, avec Jean Jouzel, avec Anne Hessel, la fille de Stéphane Hessel, avec des milliers de citoyens, on veut un traité européen. On dit que l'Europe est née avec le charbon et l'acier, qu'elle pourrait renaître avec un traité climat, biodiversité et emploi.
Oui, ce que vous dites en fait, c'est qu'il y a suffisamment d'argent en Europe et qu'il suffit donc de créer cette banque spécifique pour le climat.
Exactement, il y a deux outils qu'on voudrait, une banque qui donnerait des prêts à taux zéro. C'est Nicolas Stern, le grand économiste anglais, qui dit qu'on peut encore gagner la bataille, ça n'est pas foutu, mais qu'il faut y mettre les moyens et que chaque pays devrait avoir une enveloppe chaque année des moyens financiers qui correspondent à 2% du PIB. Et la France saurait qu'elle a chaque année 45 milliards, ça changerait tout. S'il y a un traité européen qui dit, vous les Français, rassurez-vous, vous avez chaque année 45 milliards. Donc on saurait dans le logement, dans l'agriculture, dans les transports en commun, qu'on a ce qu'il faut pour financer la transition. Le deuxième outil qu'on veut, c'est un budget climat, avec trois objectifs. Un plan Marshall pour l'Afrique et la Méditerranée. Il y a besoin d'investissements massifs pour permettre un développement économique sans passer par plus de pétrole et plus de charbon. Deuxièmement, un programme de recherche. L'Europe a mis des milliards pour faire Ariane et c'est un succès. On a mis des milliards pour faire Airbus et c'est un succès. Est-ce qu'on peut faire aussi la voiture du futur qui va consommer moins ou un ordinateur qui va consommer moins? Et puis, troisième partie du budget, que chacun de nous, si vous devez isoler l'appartement où vous habitez avec votre famille, s'il faut isoler ce bâtiment où vous travaillez, qu'on puisse dire... On rend obligatoire ces travaux d'isolation, mais la collectivité va vous donner un chèque qui va payer la moitié de la facture. Donc c'est pour ça qu'on veut un budget climat et qu'on le finance sans augmenter les impôts.
Oui, c'est ça la question, parce que on peut être effectivement très attiré par vos propositions, et puis en même temps on se dit, mais combien ça va nous coûter? Est-ce qu'on va devoir sortir cet argent de la poche et d'avoir un nouvel impôt?
Mais justement, on tient compte des gilets jaunes, qu'il y a 30% des Français qui finissent tous les mois dans le rouge, qui n'ont pas un euro d'économie, donc si on leur demande de payer plus, ils vont peut-être pas être contents, ça se comprend. Mais par contre, on sait que les dividendes ont augmenté de 15% l'an dernier, et que les bénéfices non réinvestis explosent. Et on sait aussi qu'en Europe, le taux d'impôt sur les bénéfices a été divisé par deux en 40 ans. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était en moyenne à 45%. Aujourd'hui, on est tombé à 19%. Donc on propose un impôt, un petit impôt, qui ne va pas toucher ni les artisans ni les petites entreprises. Et pour les autres, ce sera entre 1 et 5% des bénéfices. Et ça dépendra de l'évolution du bilan carbone. Donc c'est quand même pas la mort.
Alors pour que ça marche, évidemment, il faut convaincre tous nos partenaires européens. Qu'est-ce qu'ils en disent justement?
Pas tous. La Cour de justice a dit très clairement qu'on pouvait avoir une fiscalité, même si elle n'est que dans 9 pays sur les 26. Et même pour Schengen, on a commencé seulement à 5 pays, puis 8, puis 10, puis 12, et maintenant on est 26. Donc il n'y a aucun argument pour ne pas avancer. Et je pense que si l'Europe lance le modèle, peut-être que le Japon, 6 mois plus tard, fera pareil, parce que le Japon, il y a eu des catastrophes climatiques à répétition. On voit bien qu'avec Trump, il se passera rien au niveau du G20 ou rien au niveau de la prochaine COP, mais peut-être que si l'Europe montre qu'on peut vivre bien, qu'on peut créer des emplois, qu'on peut vivre normalement et en même temps diviser par 4 nos émissions de CO2, peut-être que d'autres parties du monde, Japon, Chine, suivront.
Alors, qui est-ce que vous avez commencé à convaincre?
Alors, pour le moment, il y en a qu'un qui est totalement d'accord avec nous, c'est Pedro Sanchez, qui est le président du gouvernement espagnol, et Teresa Ribera, qui est sa ministre de l'Environnement, sont parmi nos alliés depuis le début. Depuis quelques jours, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait reprendre notre projet. C'est nouveau, et on s'en réjouit. En Belgique, ça bouge beaucoup aussi. Et Donald Tusk, le président du Conseil, a mis le climat à l'ordre du jour. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que les citoyens ne se découragent pas. Et j'espère vraiment aujourd'hui que le mouvement des étudiants, et puis que jeunes et moins jeunes, disent « on veut reprendre en main notre avenir ». Et l'Europe, qui est la première puissance économique mondiale, et qui depuis 2 siècles est le numéro 1 des émissions, il faut que l'Europe accélère. Je crois qu'il faut que Madame Merkel, que Monsieur Macron, acceptent de renverser la table. Quand on est des millions à savoir que si on ne fait rien, on va vers le chaos, mais qu'il y a des solutions, on a le droit, de façon fraternelle, de façon non violente, mais de façon très déterminée, de dire à nos dirigeants, on arrête les blagues, on arrête les discours, on passe à l'action. Et c'est dans les mois qui viennent qu'il faut les obliger à l'action.
Pierre Larouturou qui a lancé avec Jean Jouzel et Anne Hessel cette idée de Banque européenne pour le climat. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation et à la mise en onde. Il y avait bien évidemment Françoise Grelot.